À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Dying Light 2 Stay Human. On aura un petit point sur les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. On parlera de news concernant les jeux qui sont à venir chez Ubisoft. On aura ensuite une news technologie qui m'a fait beaucoup rire. Puisqu'une start-up veut vendre un pistolet à lasso pour capturer les enfants indisciplinés dans les écoles. Voilà. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le jeu Dying Light 2 Stay Human. Donc c'est un jeu vidéo d'action RPG FPS et survival horror qui est jouable en solo et en multijoueur. Il a été réalisé par Adrian Sisewski, scénarisé par Gerald Brown, avec la musique que vous entendez d'Olivier Desrivières. Il a été produit par Timon Smektala, développé par Techland et édité par Techland Publishing. Il est sorti sur Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch seulement en version cloud le 4 février 2022 et il fait suite à Dying Light qui est sorti en 2015. Dans Dying Light 2, le joueur doit survivre dans un environnement peuplé de zombies. Dans ce nouvel opus, l'enjeu sera de contrôler notamment des réserves d'eau et de nourriture afin de maîtriser une cité de survivants. Les choix du joueur ont ainsi une importance capitale dans le déroulement du scénario. Et le jeu est classé PEGI 18, il obtient une note de 17 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et de 6 sur 10 de la part de Gamekult. Donc les événements de Dying Light 2 Stay Human se déroulent une vingtaine d'années après ceux du premier opus. L'état des lieux n'est pas très enthousiasmant. Le virus qui transforme la population en infectée a ravagé la plupart des survivants, survivants qui vivent aujourd'hui dans des enclaves isolées du monde extérieur. Cependant, une ville s'est organisée et est aujourd'hui l'un des derniers bastions de l'humanité, il s'agit de Vildor. En dépit des murs qui la protègent, la cité n'est pas non plus un havre de paix et en plus des infectés qui grouillent encore dans les rues, d'autres conflits menacent l'équilibre de la ville. Tandis que les survivants tentent de s'unir pour récolter au jour le jour les vivres leur permettant de tenir, une milice autoproclamée unie sous le nom de pacificateurs essaie tant que faire se peut de centraliser les ressources vitales et de protéger une population dont une partie n'a rien demandé. Au-delà de la lutte qui oppose ces deux factions, vous incarnez Aiden, un pèlerin, donc doté d'une résistance assez peu commune et capable de survivre au-delà des enclaves. Votre héros est en quête de sa petite sœur, dont il a été séparé lors de l'incendie ayant ravagé l'hôpital dans lequel tous deux étaient retenus captifs. C'est cette quête qui le conduira à Vildor, qui lui fera rencontrer toute une galerie de personnages et, vous vous en doutez, s'impliquer dans des conflits internes qu'il n'avait pas prévus. Donc avant même d'évoquer le gameplay de Dying Light 2, il convient de s'attarder sur sa volonté annoncée de renforcer la dimension narrative de son intrigue. Que ce soit dans les environnements traversés ou la moindre quête annexe déclenchée, on sent la volonté de Techland de donner corps à son univers d'une manière plus prononcée que dans le premier volet de la franchise. Riche en rebondissements, la trame principale de Dying Light 2 est très bien rythmée et sa narration un peu hésitante dans les premières heures arrive à s'affiner pour impliquer très activement le joueur dans son déroulement. Si l'on pourra certes reconnaître quelques faiblesses d'écriture, quelques clichés ou certains embranchements un brin prévisibles, ce virage narratif de Dying Light 2 est une réussite à laquelle il ne manque qu'un peu de finesse pour être total. Techland a choisi d'impliquer le joueur dans son univers et c'est très régulièrement que ses choix seront pris en compte à plus ou moyen terme afin que l'orientation globale de la trame principale soit impactée. Soutenir telle ou telle faction ou préserver vos intérêts au lieu du bien commun seront autant de dilemmes auxquels vous serez confrontés et dont vous aurez du moins partiellement à assumer les conséquences. Ne vous attendez pas à un bouleversement total de l'intrigue, mais vos actions comme vos décisions seront prises en compte dans le jeu. Et vous ne manquerez pas d'être surpris par le fait qu'un choix qui vous semblait anodin puisse être rappelé à votre bon souvenir des heures de jeu plus tard. Le même effort a été consenti aux quêtes secondaires, donc non toutes celles que vous accepterez ne seront pas à couper le souffle, mais la plupart ont bénéficié d'un soin tout particulier pour qu'elles ne ressemblent pas à de simples missions FedEx. Certaines d'entre elles sont à tiroir et réservent des surprises qui tutoient sans sourciller les meilleurs moments de la quête principale. Donc à quelques exceptions près, le contenu annexe a profité d'un vrai sens de l'écriture, tout comme l'univers du jeu, aussi vaste que cohérent. Il est d'ailleurs à noter que le jeu est assez vivant et des rencontres aléatoires vous permettront de porter secours à des survivants ou à des groupes essayant de repousser quelques zombies. Ajoutez à cela un environnement sonore particulièrement soigné et vous comprendrez que Vildor est un univers dans lequel il est très facile de s'immerger. Donc Dying Light 2 avant sa sortie, c'était essentiellement des chiffres. 500 heures de contenu annoncé et une carte 4 fois plus grande que le premier épisode. Donc dans les faits, oui, Dying Light 2 est immense et il s'agit bien d'un monde ouvert connecté sans temps de chargement, même s'il ne sera pas immédiatement possible de vous rendre d'un bout à l'autre de la carte au moment où vous y mettrez les pieds pour la première fois. Il faudra attendre un petit peu avant d'accéder aux zones qui sont reliées entre elles par de vastes étendues chimiques, infranchissables sans un minimum d'expérience. Dying Light 2 prend donc les mécaniques de l'open world traditionnel à revers, et plutôt que de vous laisser libre d'aller où bon vous semble dès le commencement, il préfère vous laisser arpenter une vaste zone de départ et laisser l'histoire vous conduire plus loin, en introduisant progressivement de nouvelles mécaniques, à même de mieux vous laisser appréhender la gestion des nouveaux environnements. Voilà qui sied plutôt bien aux ambitions narratives de Techland, qui préfère donc vous faire peu à peu découvrir des mécaniques de jeu, de déplacement ou de combat, plutôt que de vous parachuter dans une zone immense avant même d'apprendre à en maîtriser l'architecture, qui est intimement liée à vos compétences. Ce parti pris se révèle payant, donc vous débarquez en ville et avez des objectifs urgents à prendre à bras le corps, avant d'aller bagnauder dans un monde hostile dont vous ignorez tout. Quoi qu'il en soit, si les 500 heures semblent un peu exagérées, il vous faudra sans doute 80 à 100 heures pour le 100% et environ 20 heures pour la seule quête principale en ligne droite. Si vous avez déjà joué à Dying Light, vous ne serez pas désorienté puisque Dying Light 2 conserve ce que le premier avait de meilleur, tout en l'améliorant. Il s'agira donc toujours d'un jeu mêlant étonnamment bien survie, narration, parcours, combat au corps à corps et un soupçon de RPG, ce dernier étant un peu plus présent grâce à la narration plus appuyée de cet épisode. Vous pourrez donc, et ce dès le début de l'aventure, vous accrocher à quasiment tous les reliefs qui vous semblent saisissables, afin d'éviter les rues remplies d'infectés. Le jour, les rues sont à peu près sécurisées, seuls quelques infectés et bandits vous causeront des problèmes. Il s'agit donc de la période idéale pour remplir des quêtes sans trop vous préoccupé de l'infection qui ronge la ville. La nuit par contre, les choses sont plus complexes. Comme c'était le cas dans Dying Light premier du nom, le jeu propose un cycle jour-nuit qui n'est certainement pas là pour faire de la figuration. Dans cet épisode, chaque personne est infectée par le virus. Pour s'en prémunir, il n'existe que peu de solutions, évoluer en plein jour ou tenter de se réfugier sous des lampes UV pour ne pas se laisser grignoter par l'infection qui se propage très vite dans votre corps. Les infectés répondent à la logique inverse. Les plus virulents d'entre eux, justement, craignent la lumière du soleil et se terrent dans les bâtiments pour échapper à ses rayons. La nuit, ils sortent prendre l'air et les rues de la ville deviennent quasiment impraticables. Les hurleurs appelleront des hordes d'infectés plus rapides que ceux de jour, mais leur présence dans les rues vous donnera un avantage non négligeable, celui d'explorer les bâtiments renfermant des ressources précieuses. Votre survie ne dépendra pas uniquement de votre propension à faire des quêtes et à avancer dans l'histoire. Il faudra explorer, fouiller et prendre des risques pour que votre héros soit de taille à affronter des zones toujours plus dangereuses, mais jamais cette nécessité ne vous semblera être une corvée. En effet, votre personnage, aussi compétent soit-il en début d'aventure, reste assez limité dans ses mouvements ou ses techniques de combat, et ses armes sont plutôt rudimentaires. Il faudra donc tenter d'aller collecter du matériel de fabrication dans les zones sombres de la ville. Les bâtiments ordinaires renferment des matériaux utiles à la confection de bandages ou d'optimisation d'armes, tandis que les zones militaires vous aideront à augmenter votre endurance ou votre santé. Ces quêtes de matériel ne seront qu'assez ponctuelles et surtout, le jeu, une fois la nuit tombée, prend une toute autre dimension. La lumière faible, les hurleurs par dizaines et l'environnement sonore participent grandement à l'atmosphère anxiogène des séquences nocturnes, au même titre que le système d'immunité qui rajoute un sentiment d'urgence à des situations qui vous demandent déjà d'aller très vite. Ces séquences de nuit sont donc une véritable réussite et s'avèrent assez stressantes, aidé notamment par un sound design de haute voltige, fait de hurlements humains ou d'infectés qui surgissent au loin. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test pour s'écouter une musique extraite de l'OST du jeu Dying Light 2 Stay Human. C'est Rushing qui a été composé par Olivier Desrivières et on revient juste après. Donc c'était la musique Rushing, extraite de l'OST du jeu Dying Light 2 Stay Human, qui a été composée par Olivier de Rivière. On passe maintenant à la suite de ce test. Donc je l'évoquais tout à l'heure, dans Dying Light 2, chaque individu est infecté par le virus et est donc susceptible d'être transformé en monstre. Le seul moyen de se prémunir contre la propagation de l'infection et donc de la transformation en infecté, c'est de rester exposé à la lumière du jour ou, à défaut, à des sources d'ultraviolet. C'est pourquoi, en l'absence de ces deux sources de lumière, vos explorations nocturnes seront soumises à un compte à rebours, dont la durée sera accrue à mesure que votre personnage gagnera en santé ou en endurance. Sur la première portion de l'aventure, cette course contre la montre crée un sentiment de tension assez jouissif. Il faudra donc bien planifier vos expéditions, confectionner des inhalateurs permettant de réinitialiser le compte à rebours, obtenir des consommables ou créer des ressources d'UV pour espérer survivre. C'est aussi là que les activités du monde ouvert ont un intérêt, puisque certaines d'entre elles vous permettent de déverrouiller des zones sécurisées, qui vous permettent de vous reposer ou tout simplement de repousser les hordes d'infectés à vos trousses. Si certaines de ces zones sont de simples générateurs à activer, d'autres seront plus complexes et feront appel à votre sens de l'observation et vos compétences pour être débloquées. Techland a fait des efforts très notables pour rendre ce type d'activité d'open world agréable à mener, à plus forte raison qu'elle vous confère des avantages non négligeables. Vous aurez même l'opportunité d'attribuer des points de ressources stratégiques aux survivants ou aux pacificateurs après les avoir déverrouillés. Cela aura un impact direct sur le quartier de la ville en question, puisque l'une ou l'autre des factions disséminera des éléments exploitables pour vous faciliter la vie. L'affectation d'une tour électrique ou d'un château aux factions a également un impact direct sur les dialogues du jeu, et bien sûr la perception que les deux groupes auront de vous, même si cela n'impactera pas fondamentalement la quête principale, ni son dénouement. Mais bien entendu, à mesure que vous engrangerez de l'expérience, ces activités deviendront secondaires, et le plaisir à les mener s'effacera au profit d'un sentiment de progression vraiment grisant. À l'image du premier opus, vous avez plusieurs moyens de gagner de l'expérience en combat et en parcours. C'est tout d'abord la pratique de ces deux arts qui vous permettra, si vous enchaînez des séquences de sauts ou de coups ininterrompus, d'accroître progressivement votre gain d'expérience dans l'une ou l'autre des disciplines. Ensuite, naturellement, réaliser des activités annexes ou des quêtes vous apportera des gains d'expérience nettement plus importants et vous pourrez répartir des points de talent dans les arbres associés. À mesure que l'arbre se remplira, votre personnage deviendra de plus en plus maniable et de plus en plus polyvalent. Wallrun, endurance augmentée, coup sauté, exécution, les mécaniques de parcours et de combat s'imbriquent parfaitement bien et la maîtrise d'Aiden vous permettra vraiment de faire des courses spectaculaires, à plus forte raison que Dying Light 2 a rajouté des fonctionnalités très bien implantées dans le level design. Dans la seconde portion de l'aventure, vous disposerez donc d'une paravoile, dont l'utilisation consomme votre endurance, mais qui peut être réinitialisée si vous exploitez les courants d'air chaud qui sortent de certaines grilles d'évacuation. Enfin, un grappin capable de s'accrocher partout vous sera également offert après un certain moment. Il en résulte alors une très grande liberté de mouvement. On se propulse dans les hauteurs avec la paravoile, on bondit de poteau en poteau grâce au grappin pour finir par attaquer un ennemi après un wallrun. Bref, si vous aimiez le parcours de Dying Light, vous adorerez les ajustements de Dying Light 2, même si bien sûr il vous faudra un peu de pratique pour maîtriser ces enchaînements. Alors tenons-nous là le jeu parfait. Si le jeu est très beau, une fois repoussé dans ses derniers retranchements, il s'avère assez gourmand en ressources et n'esquive pas un peu d'aliasing et de clipping sur les hauteurs. Mais ce n'est là qu'un détail face à l'intelligence artificielle humaine, franchement à revoir. Les séquences d'infiltration sont ainsi assez pénibles à mener, et les combats, aussi viscéraux soient-ils, peuvent prêter à sourire lorsque des renégats attendent de prendre des coups en file indienne ou lorsqu'ils ont des problèmes de pathfinding. Enfin, sur PC et pas d'Xbox, il existe quelques problèmes d'input où certaines touches, notamment le scan d'environnement, peinaient à déclencher l'action associée comme si elle n'était pas détectée. Ces problèmes sont assez ponctuels, au même titre que les bugs d'affichage ou de collision, mais tout de même, il ressort de Dying Light 2 un petit manque de finition qui n'est en aucun cas irréparable sans un patch. Et puisque nous en sommes au registre des points faibles, sachez également que la VF est particulièrement inégale. Si les personnages principaux s'en sortent bien, d'autres PNJ plus secondaires passent à côté de leur sujet. Il faudra donc privilégier la version anglaise, mais il faudra pour cela passer votre launcher ou votre console en anglais, le titre ne permettant pas de changer l'audio à la volée. Voilà, donc pour résumer les points forts du jeu, on a un open world riche, vaste et cohérent, Des séquences de nuit pleines de tension et d'intérêt, un sentiment de progression grisant, le parcours renforcé qui est toujours aussi plaisant, un virage narratif globalement réussi avec des choix qui comptent, un contenu annexe soigné, des puzzles assez malins pour pas mal d'activités secondaires, une énorme durée de vie comptée 20 heures en ligne droite et au bas mot plus de 80 heures pour le 100%, et on a une bande originale et un sound design impeccable. Pour les points faibles, on a une VF franchement inégale, l'intelligence artificielle qui est à revoir, un final trop expéditif, un manque de finition avec des bugs visuels, du clipping, des problèmes d'input occasionnels, et enfin une écriture qui n'esquive pas quelques clichés. Voilà, du coup on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre musique extraite de l'OST du jeu Dying Light 2 Stay Human, je vais y arriver. Donc c'est la musique There is Hope de Olivier Desrivières et on revient juste après. Donc c'était la musique There is Hope de Olivier Desrivières, une musique extraite de l'OST du jeu Dying Light 2 Stay Human. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Des news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. A tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place Mario Party Superstars sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 4ème place c'est Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 3ème place c'est Dying Light 2 Stay Human sur PS4, un jeu de Koch Media. En deuxième place, c'est Dying Light 2 Stay Human sur PS5. Et en première place, c'est Legend Pokémon Arceus sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Le top 3 pour la PS5, on a en troisième place Ratchet & Clank Rift Apart. En deuxième place, c'est Dying Light 2 Stay Human, l'édition Deluxe. Et en première place, le même jeu, mais l'édition normale. Pour la Xbox Series, on a en 3ème place Forza Horizon 5, en 2ème place c'est Dying Light 2 Stay Human, l'édition Deluxe, et en 1ère place encore le même jeu mais l'édition normale. C'est un peu tous les mêmes tops en fait. Hein. puisque sur la PS4, on a en troisième place Dying Light 2 Stay Human, l'édition Deluxe. En deuxième place, c'est FIFA 22. Et en première place, Dying Light 2 Stay Human, l'édition normale. Pour la Xbox One, il y a juste pour la Xbox en fait que c'est pas du tout pareil. On a en troisième place Call of Duty Vanguard. En deuxième place, GTA V, l'édition Premium. Et en première place, FIFA 22. Voilà, pas de Dying Light. Le top 3 pour la Nintendo 3DS, on a en troisième place Pokémon Lune, en deuxième place Luigi's Mansion 2 Select et en première place New Super Mario Bros. 2. Le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en troisième place Farming Simulator 22, en deuxième place Dying Light 2 Stay Human et en première place, toujours le même jeu, mais cette fois avec l'édition Deluxe. On passe maintenant à la news de jeux vidéo. On va parler des jeux à venir chez Ubisoft. Donc le récent bilan financier d'Ubisoft fut l'occasion pour la firme de détailler son planning. Quels jeux nous attendent donc pour cette belle année à venir ? Donc pas plus tard qu'hier, Ubisoft a tenu un appel avec des investisseurs, révélant ses résultats trimestriels au monde entier par la même occasion. L'entreprise française se porte donc plutôt bien, avec une valeur nette réalisée de 746,1 millions d'euros l'année dernière, et elle s'est également exprimée sur la possibilité de se faire racheter. Ubisoft en a aussi profité pour parler de ses futures sorties, ou tout du moins de celles prévues pour cette année fiscale, qui débutera donc le 1er avril 2022, et se terminera le 31 mars 2023. On sait donc que Mario plus The Lapin Crétin Sparks of Hope arrivera pendant cette période sur Nintendo Switch, tandis qu'Avatar Frontiers of Pandora débarquera également sur les plateformes concernées, donc PC, PlayStation et Xbox. On imagine ça plutôt en fin d'année pour concorder avec la sortie du film. Skull and Bones, l'infatigable, est également cité parmi les jeux qui se proposeront cette année. En prime, on apprend également que d'autres jeux excitants arriveront bel et bien, reste à voir de quoi s'agit-il. Certains projets manquent toutefois à l'appel. On ne peut ainsi s'empêcher de penser à la refonte de Prince of Persia, Les Sables Oubliés, annoncée pourtant en septembre 2020 après déjà 3 ans de développement. Il faut croire que les retours particulièrement froids de la part du public auront poussé Ubisoft à revoir son chantier en profondeur. Quant à Splinter Cell Remake, récemment annoncé, il figure également aux abonnés absents. En revanche, nous ne sommes pas vraiment surpris puisque l'entreprise avouait que la gestation en était encore à ses débuts. De plus, le projet s'inscrivant dans un vaste monde ouvert, on imagine que la conception devrait nécessiter un certain temps. Je rappelle que dans les tuyaux d'Ubisoft se trouvent aussi plusieurs jeux Assassin's Creed, l'un nommé Infinity, particulièrement intriguant et qui se proposerait comme un titre réunissant de multiples expériences tirées des anciens volets, et un autre encore non annoncé officiellement, qui porterait le nom de Rift et qui serait décliné de Valhalla. Ce dernier pourrait justement sortir cette année selon les récents bruits de couloir, donc affaire à suivre. On passe maintenant à la news technologie. Élever des enfants est une tâche difficile et c'est vrai autant pour les parents que pour les établissements scolaires. Pour tenter de résoudre le problème des enfants indisciplinés dans les écoles, une start-up veut populariser un pistolet à lasso pour capturer les récalcitrants qui tentent de s'échapper. Donc cela peut sembler totalement incongru, mais Wrap Technologies, une start-up américaine, a décidé de se lancer dans le commerce de pistolets à lasso pour la capture d'enfants et de patients turbulents. Si l'utilisation de ce genre d'armes est tout à fait normale dans le secteur de la sécurité, d'ailleurs la start-up vend déjà son produit nommé Bolavrap à certains départements de police aux États-Unis, l'utiliser dans les écoles, les hôpitaux et d'autres entités non policières est tout de même assez étrange. Quoi qu'il en soit, un établissement de soins psychiatriques a déjà manifesté son intérêt pour l'achat de ces pistolets à lasso, a rapporté Vice. Pour l'instant, la commercialisation de ce pistolet en dehors du secteur de la sécurité reste au stade de projet, dans la mesure où l'appareil est considéré comme une arme et est donc soumis à la réglementation sur les armes. Face à cet obstacle, l'ancien PDG de la société a déjà déposé une demande d'exemption pour les Bolavrap auprès du bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs. On ignore si Wrap Technologies a déjà reçu une réponse à sa demande, mais elle semble confiante puisqu'il est indiqué sur son site web que la société prévoit de mettre le Bolavrap à la disposition d'autres professionnels à l'avenir. Notons que le pistolet à lasso de la start-up fonctionne en projetant une corde qui s'enroule autour de la cible, tout comme le lasso d'un cow-boy. Bien évidemment, l'usage d'un tel gadget à l'école et auprès de personnes victimes de troubles mentaux est source de nombreuses controverses. Pourtant, nombreux sont ceux qui soutiennent que c'est une meilleure alternative au pistolet électrique paralysant. Voilà, je sais pas si vous faites ça sur vos enfants, mais c'est un poil dangereux quand même. Voilà, donc affaire à suivre également. On va maintenant pouvoir finir l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on a eu deux sorties aujourd'hui, vendredi 18 février, avec Horizon Forbidden West sur PS5 et PS4, et Brookhaven sur PC. On aura ensuite d'autres sorties pour mardi 22 février, avec Destiny 2, la Reine Sorcière sur PC, PS5 et Xbox Series, Monarch sur PC, PS5 et Nintendo Switch, Sol Cresta sur PC, Nintendo Switch et PS4, SCP Pandemic sur PC et Tiny Combat Arena sur PC. On aura une sortie mercredi 23 février avec les Sims 4 Mariage sur PC, PS5 et Xbox Series. Et les dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 24 février avec Ghost on the Shore sur PC, Who's Layla sur PC et enfin Variable Barricade qui sera disponible sur Nintendo Switch, PS4 et Vita.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble que vous retrouverez lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchéfette.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.